France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse en direct jusqu'à 11h. Et ce matin, à l'occasion de la journée spéciale sur France Inter consacrée aux écrans, comment expliquer notre addiction aux réseaux sociaux? Doit-on d'ailleurs parler d'addiction ou plutôt d'usage problématique? Comment expliquer cet irrésistible attrait pour Instagram, TikTok, Facebook, X? Comprendre les raisons de cet usage excessif permet de proposer les meilleures solutions pour décrocher. Pourquoi notre cerveau est-il à ce point attiré par ces applis? Pourquoi n'arrive-t-il pas à réguler cet usage? Que l'on soit ado ou adulte, comment s'en sortir? Même les plus âgés sont concernés. Le Figaro parle même des écrans comme d'une nouvelle cage dorée numérique des seniors. Et vous, racontez-nous pourquoi vous n'arrivez pas à vous passer des réseaux sociaux, vous ou vos enfants. Comment faites-vous pour réguler cet usage et pourquoi vous arrivez à vivre sans ces réseaux sociaux? J'aimerais vraiment vous entendre ce matin au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter crève l'écran. Grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
Bonjour docteur Sylvie Diozica.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre, responsable de la consultation hospitalière dédiée aux écrans à l'hôpital Jean Verdier de Bondy en Seine-Saint-Denis. Vous êtes membre du collectif Surexposition Écran, le COS, et vous avez créé la première consultation pour troubles liés à la surexposition aux écrans. Et vous avez coécrit chez Grasset avec votre mari, Eric Ozica, L'enfant écran, comment échapper à la pandémie numérique. Bonjour Sylvie Chocron.
Bonjour Ali.
Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS de classe exceptionnelle. Selon la terminologie en vigueur. Vous êtes professeur dans plusieurs masters. Dernier livre paru aux presses de la Cité, Plongé dans votre cerveau. Bonjour Fanny Jacques.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, cofondatrice de Mental Tech, une association qui intervient dans les conférences consacrées au sujet qui allie technologie et santé mentale. Et en mai prochain, vous publierez L'IA, une amie qui vous veut du bien. Première question qui conditionnera tout le reste de notre émission. Pourquoi les réseaux sociaux apparus au cours des années 2000 et qui ont pris une ampleur sans précédent dans nos vies, pourquoi apparaissent-ils comme d'irrésistibles pâtisseries pour notre cerveau? Sylvie Chocron.
Moi, je crois que je suis encore plus sévère que vous, parce que je dis des sucreries quasiment, pour des friandises, c'est au-delà. Parce que tout simplement, ils ont été conçus pour être irrésistible. Donc, à chaque fois qu'on va aller sur un réseau, on va y trouver ce qu'on cherche. L'offre est telle, c'est un petit peu comme nos téléphones qui sont devenus des machines à tout faire. Les réseaux sont devenus une source d'information dans tous les domaines et peuvent nourrir votre appétit de curiosité dans tous les domaines. Et évidemment, c'est pour ça que c'est très dur d'y résister. Et puis aussi parce que le mécanisme même de fonctionnement du réseau, à chaque fois que vous avez une notification par rapport à un post que vous avez mis, ou à chaque fois que vous voyez quelque chose sur TikTok qui tout d'un coup suscite de la joie, de la tristesse, du dégoût, de la colère, peu importe, vous avez une libération de dopamine dans votre cerveau. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est ce qui fait que ça vous rend dépendant à cette source-là d'information. C'est le même mécanisme que dans les addictions. Vous allez toujours en vouloir plus et encore plus et encore plus.
Et c'est essentiel de comprendre ça pour se dégager de l'emprise des réseaux. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté du sujet.
Exactement.
Fanny Jacques.
Oui, tout à fait. Et peut-être pour rajouter, alors c'est ça, ce sont des machines qui sont de toute façon fabriquées pour capter l'attention. Elles ne sont pas neutres. Et moi, je rajouterais un point d'attention sur les algorithmes. Les algorithmes, pareil, ils ne sont pas neutres. Ils ne vont pas vous pousser ce qui est vrai ou ce qui vous fait du bien. Ils vont vous recommander ce qui fait réagir. Et donc, les algorithmes sont très sexués. Et ça, c'est assez c'est compliqué aussi pour les jeunes, justement. Chez les garçons, ça va plutôt leur pousser des choses qui peuvent être violentes, un peu radicalisantes, voire misogynes. Alors que chez les filles, ça va pousser des choses autour de l'image de soi, la validation sociale, etc. Et ça aussi, ça fait partie de l'entretien de l'addiction.
Je m'adresse à la médecin psychiatre. On va parler ce matin beaucoup d'addiction, mais ne s'agit-il pas plutôt d'un usage problématique ? C'est un l'addiction, ça répond à des mécanismes très spécifiques.
Tout à fait, mais c'est un usage problématique qui peut conduire à l'addiction, comme un usage problématique de l'alcool peut conduire à l'addiction. La définition de l'addiction, c'est qu'on a du mal à s'en passer, c'est qu'on en est dépendant, c'est que quand Internet ne fonctionne pas ou quand on n'a pas de téléphone, on est angoissé et qu'on ne sait plus quoi faire de nos 10 doigts. Et c'est qu'au fur et à mesure, on augmente la consommation, c'est-à-dire là, le temps d'écran. Donc on est dans de l'addiction.
Sylvie Diozica.
Reprendre ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on est devant un modèle économique particulier, il faut bien l'entendre ça, puisque en fait on capte nos données par tous les systèmes, les petits comme pour les grands, et donc les adultes sont dans le même train. Quand vous captez les données de façon répétée, vous avez toutes les informations qui vous permettent ensuite d'avoir une publicité ciblée, qui encore une fois est le modèle économique de toute l'industrie du numérique. Et à partir du moment où on a ça en tête, on sait qu'on est le produit. On sait qu'on est le produit parce que de ce fait, on ne va pas lâcher, puisqu'on fait tout avec ces algorithmes, avec ces systèmes qui connaissent, comme on dit, Google connaît mieux votre ado que vous-même pour les parents, par exemple, ça fait quand même réfléchir. Et à partir de là, quand on a toutes ces données, on ne lâche plus. Et si on ne lâche plus, eh bien, ce temps passé avec ces contenus en plus inadaptés vont complètement modifier le comportement de nos enfants, de nos ados et les adultes, je les mets dedans également.
Sylvie Chocron, c'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre pourquoi on est addict à ces réseaux sociaux avant d'esquisser des solutions concrètes.
Oui, moi je milite vraiment pour qu'on explique ce qui se passe dans le cerveau, pour qu'on explique ce qui se passe sur le plan attentionnel justement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'économie de l'attention ? Ça veut dire que ces réseaux et ces outils de manière générale sont faits pour capter notre attention de manière passive. Ça veut donc dire qu'au bout du compte, nos capacités à contrôler volontairement notre attention vont diminuer et qu'on va être vraiment prisonnier du temps qu'on passe sur les réseaux. Et il faut expliquer ça aux jeunes, parce qu'il y a un moment de bascule où ils vont perdre la notion de choix, de volonté, et il faut leur expliquer ce qui se passe. Maintenant, juste un mot sur la question de addiction ou pas. Il y a tout un débat actuellement pour savoir si on devrait utiliser le mot addiction ou pas. Et comme vous l'avez dit, vous avez raison, l'addiction, elle obéit à certains mécanismes. Quel que soit le terme qu'on utilise, on ne peut pas nier qu'on est devenu dépendant à nos écrans, que c'est encore plus vrai pour les jeunes qui sont natifs des écrans, puisque nous, adultes, on a externalisé toutes nos capacités dans les écrans. Mais pour les jeunes, ces écrans et ces réseaux sont une partie intégrante d'eux-mêmes.
Fanny Jacques.
Non, moi je voulais compléter ce que vous disiez sur le produit. On dit souvent quand c'est gratuit, attention, c'est toi le produit. Voilà, donc ces réseaux sociaux, évidemment pour la plupart ils sont gratuits et a priori c'est pas juste parce que ils sont super sympas.
Et ils sont aussi, un autre point important, sans modération, sans régulation, absolument pas. La télé, les programmes télévisuels le sont, mais tout ce qui est réseaux sociaux, jeux vidéo et autres,
sont pas modérés.
Une régulation correcte.
Et nous accueillons Isabelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Isabelle. Bienvenue.
Bonjour.
Isabelle. Bonjour Isabelle. Êtes-vous accro aux réseaux sociaux, vous ?
Alors, addict ou dépendante, je ne sais pas, mais j'avoue que l'ambiance particulièrement morose de notre situation politique internationale est vraiment, moi j'ai envie de m'évader. Donc à la télévision, il n'y a pas du tout ce que je vois sur les réseaux. Et ce que je recherche, c'est essentiellement des réels dans la nature et des conceptions de l'IA. Je me suis abonnée à plusieurs créateurs parce que je retrouve un petit peu un monde fantastique avec des jolies choses, des jolies couleurs. Et j'adore ça. Voilà. Donc j'avoue que je suis capable de regarder ça le soir, tard, pendant 1 heure, 2 heures. Ça me détend énormément.
Vous êtes retraitée, c'est ça ?
Oui.
Et qu'est-ce que ça vous apporte ? Et est-ce que vous arrivez tout de même à prendre un peu de la distance avec ces réseaux sociaux ?
Je prends de la distance avec tout ce qui ne m'intéresse pas. Les pubs, moi je les zappe, il n'y a aucun problème, j'arrive à sélectionner. Je recherche essentiellement quelque chose que je ne trouve pas ailleurs. J'ai beaucoup de mal à lire. Si vous voulez, je pense que je retrouve ce qu'on pourrait trouver dans un livre, même si c'est beaucoup plus court, parce que j'arrive à, comment dire, à m'évader, quoi. Je suis dans une histoire, mon cerveau part ailleurs, et je trouve ça génial. Je ne peux pas lire, malheureusement, parce que j'ai un œil qui a été abîmé, et c'est très épuisant pour moi. Mais voilà, ça fait partie des choses qui peuvent être, pour moi, qui sont une manière de m'évader, ce que ne m'apporte absolument pas la télévision.
Hein. Fanny Jacques, usage raisonné des réseaux sociaux d'Isabelle, mais quand même avec des conséquences sur son attention.
Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord, Isabelle, c'est plutôt un usage raisonné avec des objectifs qui sont assez clairs de s'évader. Moi, ce qui me fait un petit peu tiquer, c'est une heure ou deux le soir. Hein, on sait que ça va quand même empêcher d'avoir un sommeil de qualité, de regarder les écrans. C'est la première chose. Donc peut-être l'idée, ça serait d'alterner, de se faire un soir une heure de réseaux sociaux, mais un soir un livre en audio, ça fonctionne bien quand on a des problèmes oculaires. On peut faire aussi un peu de méditation, un peu de yoga, écouter la radio, un podcast, voilà, d'échanger.
Sylvie Chocron, Sylvie Duozica.
Pardon, moi j'allais dire, reprendre l'impact sur le sommeil, ça c'est tout à fait démontré, hein, les travaux de l'ANSES ont repris un des premiers impacts, c'est le sommeil en qualité et en quantité, et c'est vrai chez les adultes et chez les enfants, et on va dire tout de suite si vous impactez le sommeil en qualité et en quantité, en fait, c'est une histoire de domino. Vous impactez la concentration, l'humeur, les capacités d'apprentissage, d'attention, les fonctions exécutives. Donc, on est tous d'accord. Il y a un problème de la santé, en tous les cas, mentale et puis physique. On en reparlera aussi.
On reviendra tout à l'heure sur ce rapport de l'ANSES. Sylvie Chocron.
Oui, juste une petite remarque pour Isabelle. Je pense que la notion de choix, elle est importante parce qu'elle choisit ce qu'elle veut regarder. Mais ensuite, elle décrit très bien le phénomène qui est presque un phénomène d'anesthésie du cerveau ou d'évasion ou de rêve éveillé. Ce qui est important, c'est de garder la capacité à utiliser son imagination et à s'évader avec d'autres choses que les réseaux, parce que sinon, on finit par devenir dépendant de cette source-là de pensée.
Et c'est là où
ça, et c'est là où ça devient un peu problématique.
Et n'oublions pas que les algorithmes lui donnent ce qu'elle attend. Et donc, on se retrouve dans un système de tunnel qui est vraiment problématique, puisqu'après, il n'y a plus rien qui nous intéresse que ce que l'on regarde.
Une question très intéressante de Nadège de Pleurmel en Bretagne. Mon fils de 12 ans passe beaucoup de temps sur des vidéos YouTube où des YouTubeurs testent des jeux vidéo. Est-ce qu'il faut considérer que c'est le même mécanisme de récompense que dans l'addiction ? Qui veut répondre à cette question, Fanny Jacques ?
Moi, je considérerais que oui, parce que, et alors, ça, moi aussi, mes enfants, ils ont eu tendance à faire ça, donc regarder quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, donc cette espèce de double écran, cette double dépendance, c'est classique, mais on est, à mon avis, oui, enfin, j'en suis certaine, même dans ce même mécanisme de récompense et de mécanique de dopamine, de récompense accélérée, qui vient vite, qui monte fort et qui donne envie de continuer et de continuer encore, c'est la même chose pour moi, les vidéos YouTube.
Il faut reprendre... du coup la main, tout en laissant son enfant effectivement regarder certains youtubeurs et autres jeux, mais il faut revoir s'il y a un impact sur la famille, sur la santé, sur des activités autres. Est-ce que ce garçon continue à faire du sport? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il l'utilise le soir? Enfin, tous ces points-là doivent être vus.
Prenons ce cas concret de Nadège et de son fils de 12 ans. Quel conseil peut-on lui donner pour que justement son fils de 12 ans passe moins de temps sur ses vidéos de youtubeurs? Alors, j'ai pas le temps d'écran de ce garçon. Mais est-ce que vous avez peut-être un premier conseil à partager qui fera sans doute écho à de nombreux auditeurs, Sylvie Chocron?
Oui, moi je pense que ce qui est important, c'est de lui proposer d'autres activités, de lui proposer des activités sans écran, d'être certain qu'il peut continuer à avoir d'autres intérêts que de regarder des youtubeurs en train de jouer aux jeux vidéo. Parce que la problématique dont on parle là, depuis le début, c'est une problématique d'aimantation, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire de perte de contrôle du temps passé. Et il ne faut pas dire à un enfant, je t'avais dit de passer 5 minutes devant ton écran et ça fait une demi-heure que tu y es, parce que l'écran est fait pour lui faire perdre la notion du temps. Donc ça, ça ne sert à rien. Par contre, lui proposer d'autres activités où il ne pourra pas utiliser son écran, comme faire du sport, comme cuisiner ensemble, comme aller au cinéma, comme marcher dans la nature, comme aller nager, c'est autant d'activités qui vont lui permettre de se souvenir qu'il y a autre chose comme activité que de regarder les youtubeurs sur les écrans.
Sylvie Diozica.
Je repointe la responsabilité, on la met souvent, on donne souvent la responsabilité aux parents. Ouais. Non, on le redit, c'est la responsabilité des jeux vidéo, des réseaux sociaux et de tout ce système économique. Et arrêtons de dire que c'est de la faute des parents. D'abord, informons-les ce qu'on fait. Moi, je dirais un point important, évidemment, je partage, c'est le sommeil. Vraiment, préservons les ados, les enfants, d'avoir une qualité de sommeil correcte. Donc, pas d'écran dans la chambre, c'est très simple. Hein, on va donner des tips, hein, mais les quatre pas, et un des quatre pas que nous promouvons dans le collectif sur exposition écran,
c'est quoi, les quatre
un
pas
lieu. Donc, un lieu, pas d'écran dans la chambre, et ça vaut pour tout le monde. Donc là, les parents aussi doivent se poser la question du modèle, parce que les enfants font ce que font leurs parents et pas seulement ce qu'ils disent. Et puis, les trois autres pas qui sont importants, c'est trois temps sans écran, qui sont idéalement pas le matin, pour avoir une concentration pleine et entière en arrivant à l'école notamment. Pas pendant les repas, je rappelle qu'on mange des fois quatre fois par jour, n'est-ce pas, avec les enfants, notamment le week-end, c'est un moment d'échange, pas la télévision allumée en arrière-plan, hein, qu'on croit insignifiante notamment pour le petit. Et dernier point, préservons encore le sommeil, pas une heure avant de dormir, c'est idéal pour pouvoir s'endormir sereinement.
Fanny Jacques.
Oui, un dernier conseil pour cette dame qui parle des jeux vidéo, c'est ce que vous disiez, Sylvie, c'est de tout bêtement mettre un timer, parce que c'est vrai qu'il y a même pas pour interdire, mais pour montrer la différence entre le temps réel et le temps ressenti. Et ça, l'enfant, souvent, ça le marque quand même. On met le timer discrètement, on lui dit, tu vois, ça fait 30 minutes, il va venir, non, pas du tout, ça fait 10 minutes. Bah non, je te jure, ça fait 30 minutes. Et ça, quand même, ça les travaille de voir cette perte de temps, et comme le temps file quand on scrolle à l'infini.
Sylvie Chocron.
Oui, non, c'est exactement ça, parce qu'en fait, les écrans, leur principe, c'est de vous faire perdre la notion du temps, et donc les enfants, il faut qu'ils récupèrent cette mesure du temps, parce que réellement, quand vous, pour eux, 5 minutes ou 10 minutes ou une demi-heure ne correspondent pas du tout à la réalité.
Fanny Jacques, vous m'avez dit hors antenne que vous étiez mère de 4 enfants. Comment faites-vous pour, vous, concrètement, réguler les temps d'écran chez vos enfants en désamorçant des conflits? Parce que forcément, vous allez à l'avant de disputes éventuelles avec vos enfants en régulant strictement leurs réseaux sociaux. Comment faites-vous?
Alors, en plus, j'ai des enfants un peu de tous les âges, hein, 4, 13, 16, 18, donc du coup... J'ai un peu de tout. Et c'est vrai que moi, j'ai interdit. Hein. Pour moi, interdire, c'est aussi protéger. Donc, pour moi, il n'y a pas de téléphone avant la troisième. C'est téléphone à clapet où on fait SMS et appel, parce que c'est quand même la fonction primaire du téléphone. Il ne faut pas l'oublier. On a un smartphone chez moi à partir de la troisième, mais sans aucun réseau social. Et le réseau social, ça vient en seconde, voire en première, selon les fragilités de chacun de mes enfants et leur personnalité. Pour moi, interdire, c'est aussi vraiment les protéger. Et évidemment, il faut les éduquer. Et je reviens aux quatre pas. Mais le premier modèle, c'est vrai, et j'en suis parfois un mauvais exemple, hein, ce sont les parents. Et moi, parfois, ils se moquent de moi. Hein. Ils me disent, t'es avec moi, maman. Parce que je suis sur le nez sur mon téléphone, hélas.
Sylvie Diozica.
Oui, l'exemple, évidemment, compte. C'est essentiel. Ça va de soi. Il faut... vraiment reprendre la main et se dire qu'on protège son enfant. Et en fait, les parents se rendent compte de plus en plus que l'autre ne donne pas de téléphone, ainsi de suite. Moi, je vois dans les écoles, quand je fais des conférences, les parents se rendent compte, non, en fait, il n'a pas de smartphone, Arthur, alors que je pensais qu'il en avait un. Donc, il faut que les parents soient unis pour se dire, je le protège et je l'informe. Et donc, protéger, c'est interdire aussi, encore une fois. On a interdit l'alcool, on a interdit le tabac, on a interdit à un enfant de traverser la rue seul ou de sortir à n'importe quelle heure. C'est pas parce que son enfant est sous son même toit qu'il est protégé. Ça aussi, les parents ont vraiment l'impression que s'il est dans sa chambre tranquille, il est protégé. Pas du tout. Il surfe sur Internet. On n'a pas parlé du porno. Il y a des tas d'autres contenus qui posent vraiment problème aux ados.
Sylvie Chocron.
Oui, moi je voulais, puisqu'on parle des parents, d'écran et de parentalité, je voulais juste rappeler quelque chose. Souvent, les parents sont très fiers que leur enfant très jeune sache utiliser un téléphone, y compris pour les tout petits. Et ils ont l'impression que leur enfant...
est agile.
Exactement. Et qu'il ne sera pas dépassé d'un point de vue technologique. Alors qu'il faut rappeler aux parents que jusqu'à présent, on n'a jamais montré que les écrans étaient meilleurs que l'interaction réelle avec un parent pour grandir, pour s'éduquer. Que les enfants ont besoin de grandir avec des êtres humains avec qui ils interagissent. Ils ont besoin de manipuler de véritables objets. On n'a jamais montré que manipuler des cubes en deux dimensions sur une tablette, c'était mieux que de prendre un vrai cube et de le laisser tomber. Et donc, il faut vraiment déculpabiliser les parents par rapport à ça. Votre enfant sera aussi intelligent, voire plus, s'il interagit avec vous, avec de vrais objets, plutôt qu'avec des écrans.
Allez, dans un instant, nous verrons s'il est trop tard pour décrocher des réseaux sociaux ou s'il y a encore un espoir de mettre à distance ces outils numériques qui transforment en profondeur notre condition humaine. Ce sera juste après avoir écouté Hills, qui interprète Novocaine for the Soul, une chanson sortie il y a 30 ans exactement, 10h25 sur Inter.
Life is hard, and so am I. You'd better give me something so I don't die.
Interpréter Novocaine for the Soul.
Grand bien vous fasse. France Inter crève l'écran. Ali Rebéi.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse, à l'occasion de la journée spéciale de France Inter consacrée aux écrans, comment expliquer notre addiction aux réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, X, des mastodontes beaucoup plus forts que nous, David contre Goliath, même si à la fin c'est le frêle David qui gagne à la fin, Sylvie Dieu-Ozica, co-autrice de l'enfant écran.
Oui, le collectif sur exposition écran est justement David et il va essayer de gagner. Depuis 2017, on essaye d'influencer, d'alerter sur ce sujet. Je passe un mot, j'en profite un peu. Le 24 janvier, la Bellevilloise à Paris, nous allons parler de cette problématique toute la journée avec le collectif Attention et chercher des solutions. On a parlé des petits, et je remercie Sylvie Chocon de l'avoir dit, je vais dire un autre mot sur la technoférence qui me semble important.
Expliquez ce que c'est.
Alors la technoférence, c'est le fait qu'un adulte, quel qu'il soit, pour des bonnes ou mauvaises raisons, télétravail ou autre, soit accaparé par son écran et donc complètement happé, absorbé et donc non disponible, non engagé pour celui qui est à côté de lui et notamment le tout petit, mais le plus grand aussi reproche à leurs parents de ne pas être disponible. Et ça, ça a un impact extrêmement important, notamment chez le petit. Il y a des troubles des interactions, des troubles même de l'attachement qui sont en train de s'installer. Et tout ça va entraîner des troubles du langage puisque, on l'a dit, l'enfant apprend en jouant et il apprend dans le regard de l'autre. Et si le regard n'est pas là, il y a une vraie problématique. Donc regardez vos bébés, parlez-leur, ça sera toujours mieux que le numérique.
Un conseil pour lutter contre cette technoférence, Sylvie Chocron, Sylvie Dieu-Ozica ou Fanny Jacques, ouais. Un conseil ?
Alors, se souvenir, comme l'a dit Sylvie Dieu-Ozica, se souvenir que le contact visuel, c'est crucial. Entre le bébé, le tout petit, et son parent, c'est ce qui va libérer de l'ocytocine, qui va créer l'attachement. On sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre la qualité du contact visuel et la qualité du développement du langage. Donc, à chaque fois qu'on interagit avec des petits, poser son téléphone loin et être vraiment dans l'interaction réelle, parce que de plus en plus on voit des mamans qui ne regardent leur petit que à travers leur téléphone pour faire des photos ou des vidéos. On sait qu'il y a des bras articulés qui se fixent sur le biberon pour que les mamans puissent aller donner le biberon en regardant leur téléphone. On sait que les mamans coincent parfois leur téléphone dans leurs bras pendant qu'elles allaitent. Il faut vraiment les alerter. L'interaction réelle, et en particulier le contact visuel entre le tout petit et sa maman, donc, il est crucial.
L'idée, c'est vraiment de se forcer,
d'abandonner son
de
téléphone,
poser son écran, son téléphone, quand on interagit avec un tout petit, un bébé, vraiment, c'est parfois difficile à faire, mais il faut absolument le faire. Fanny Jacques, psychiatre.
Oui, je compléterais même pour la santé mentale, en fait, moi, de la maman. J'ai bon nombre de mamans qui me disent « Ah, je m'en souviens plus ». En fait, il faut pratiquer un peu la méditation, c'est-à-dire être dans l'instant présent. Allaiter, ça dure tellement peu de temps, ça va tellement vite, pourtant j'en ai quatre, et c'est tellement rapide. Il faut profiter, se dire « J'ai tout le temps pour mon téléphone, là, je me fixe dans le moment présent ». Ça aussi, ça envoie de la dopamine et ça fait plaisir.
Mais alors, on ne va pas culpabiliser les mamans pour autant, parce que si elles n'arrivent pas à le faire, c'est que justement, ce qu'atteignent les outils technologiques, c'est nos capacités de contrôle. Et que donc, on n'arrive plus à contrôler. On a l'impression qu'on va juste regarder une notification, puis on est parti pour une demi-heure ou plus. Et donc, il faut que les gens soient conscients qu'il faut qu'ils reprennent la main.
Mais comment on fait pour reprendre le contrôle?
Il faut réapprendre à se fixer des limites. Il faut s'imposer un délai, je pose mon téléphone pour tant de temps et je ne le prendrai pas avant d'avoir fini de faire ça. Donc, il faut se reposer des contraintes, parce qu'on devient intolérant aux contraintes et aux contrôles.
Et avoir cette information, c'est ce que je dis à ma consultation sur exposition écran, où je reçois des enfants de 2 ans, 3 ans, et où les mamans racontent très bien qu'elles se sont fait avoir, parce que pour manger, c'est plus facile, pour le calmer, ça marche extrêmement bien, tout le monde a dû vivre ça à un moment ou un autre, et du coup, elles rentrent dans un engrenage qui n'est pas de leur fait et de leur faute, qui est le principe de cette capacité à nous absorber et à faire qu'elles ne sont plus disponibles pour leur enfant.
Et rappelons que l'écran est également un doudou pour les enfants et pour les
Après,
adultes.
Il faut savoir que l'enfant s'intéresse à ce qui intéresse son parent. Donc au fur et à mesure, l'enfant va dériver, prendre le portable de son parent, et puis le parent va se dire, après tout, c'est peut-être éducatif, et ça ne l'est pas. Ça, s'il y a un grand terme à bien comprendre, ce n'est pas éducatif, c'est le parent qui apprend le mieux à l'enfant.
Et nous accueillons Céline. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous appelez d'où Céline ?
De Dijon.
Alors vous avez une ado de 13 ans, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
Alors comment ça se passe ? Expliquez-nous un petit peu.
Eh ben déjà, on a lutté jusqu'à il y a 5 mois, donc pendant toute sa classe de 6e et de 5e, elle n'avait pas de téléphone. Il n'y a pas de jeux vidéo parce qu'elle n'est pas forcément intéressée. Et puis depuis qu'elle a le téléphone, c'est très compliqué parce qu'on continue à lutter et à absolument pas accepter les réseaux sociaux. On a mis une limite de temps, mais en fait notre fille nous reproche de lui gâcher sa vie. Qu'elle est une extraterrestre à cause de nous, et elle pleure en disant qu'elle est triste de pas avoir WhatsApp. Enfin, c'est vraiment une lutte vraiment difficile à mener. On se sent des fois un peu seul. Alors merci pour votre émission parce que ça me conforte dans nos choix de parents. On sait pourquoi on le fait, on sait qu'on la protège, mais c'est vraiment dur.
Fanny Jacques.
Oui, je réagis parce que c'est vrai que c'est stigmatisant. Enfin, on peut nous dire ça. Voilà, on va nous le dire. Moi, avec mes enfants, avec leur téléphone à clapet, c'est le pauvre, il est stigmatisé, il n'est pas dans le groupe WhatsApp. Mais en fait, il faut leur apprendre justement à en être fier et à dire, ben non, mes parents me protègent parce que maintenant, en plus, il y a des rapports qui disent que ce n'est pas bon pour la santé mentale. Donc, mes parents sont protecteurs.
Exactement. La semaine dernière, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a publié une étude consacrée aux effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents. Il s'agit d'une étude pluridisciplinaire avec des épidémiologistes, des biologistes, des pédopsychiatres, des psychologues, des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, des spécialistes qui ont recensé plus d'un millier d'études scientifiques sur les effets des réseaux sociaux sur la santé. Alors on l'a dit tout à l'heure avec Sylvie Diozica, un grave impact sur le sommeil, une altération du sommeil, le sommeil de mauvaise qualité qui a évidemment une influence sur le comportement des adolescents. Et puis, ça peut avoir, cet usage excessif des réseaux sociaux, un impact sur la dévalorisation de soi, notamment chez les adolescentes. Et j'en reviens donc à Céline et à sa fille. Céline protège sa fille parce que tous ces réseaux sociaux, comme TikTok, qui a été accusé de d'altérer l'image de soi des adolescentes. Donc Céline protège sa fille.
Exactement.
Bravo Céline.
Bravo Céline, on n'irait pas cracher à la figure de son enfant de 12 ans notre fumée de cigarette, parce que les études ont démontré que le tabagisme passif, c'était grave. Bah là, maintenant, Céline, elle va pouvoir s'appuyer sur des études scientifiques. C'est grave, les réseaux sociaux, et encore plus chez les filles. Donc
pourquoi
il faut les protéger.
Expliquez-nous.
Alors déjà, il y a beaucoup plus de filles hein, qui utilisent les réseaux sociaux, donc les algorithmes sont un peu faits pour les filles, et très rapidement, déjà, elles sont plus soumises à toutes les violences, les revenge porn, les nudes, et que je balance parce qu'on a rompu les images de toi dévalorisantes sur les réseaux. Et
puis les revenge porn, c'est la vengeance d'envoi de vidéos,
photos, de nus, en position aguichante, etc. Et avec l'IA, c'est encore pire. Et puis comme toutes ces plateformes, elles touchent autour du visuel, du regard des autres, qui est considéré comme une vraie valeur. Il m'a liké, il m'a vu, c'est une valeur. Bah, les filles, elles sont très sensibles à l'adolescence sur l'image de soi. Donc elles vont beaucoup l'utiliser pour ça, pour valoriser ou pas, hélas, leur image d'elles-mêmes.
Avec un autre impact des réseaux sociaux, hein, juste selon ce rapport de l'ANSES, comportements à risque comme automutilation, troubles alimentaires, consommation de drogue ou tentative de suicide. Sylvie Duodica.
Absolument, donc les troubles du comportement alimentaire, hein, parce que ça, on a des skinny challenge ou autres, par exemple, sur TikTok, et qui vous poussent à la maigreur extrême, et on ne voit de plus en plus de troubles du comportement alimentaire chez les jeunes adolescentes et les jeunes adultes, c'est important. On reprend ce travail, hein, 500 pages, il y a de quoi lire, hein, c'est 5 ans de travail. Donc il y a, encore une fois, on pointe la responsabilité des réseaux sociaux dans leur modèle économique, c'est très bien expliqué, et c'est important de reprendre cette absence aussi de modération dans ce système.
Sylvie Chocron.
Oui, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'évidemment, nous on est en train de pointer tous les effets négatifs des réseaux sociaux, mais évidemment, au départ, ils ont quand même été faits pour créer
bien
du
sûr.
Lien, même si c'est du lien virtuel. Et de fait, l'argument des jeunes, ça va être de dire qu'ils sont exclus de leur groupe social.
Très et important donc, à cet âge de la vie, le groupe d'appartenance.
Exactement, et c'est comme si vraiment on les punissait, on les ostracisait. Donc c'est important de leur expliquer que oui, au départ, le but louable, c'était le contact, et qu'effectivement, ça reste un outil pour communiquer. Mais qu'il n'empêche qu'il y a des études aujourd'hui qui ont montré que si on réduit seulement de 10 minutes les principaux réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram. Chez les jeunes filles, on va observer de manière significative une réduction des signes de dépression et d'anxiété. Et donc, de fait, on a des données maintenant pour dire qu'on peut protéger les adolescentes de tous les effets néfastes.
Céline, tenez bon.
Vous êtes des billes, Céline.
Vous êtes sur la bonne voie.
Vous êtes sur la bonne voie.
Il y a le pacte sans smartphone de parents que vous pourriez rejoindre et d'autres parents font comme vous. Vous n'êtes pas seule.
Okay.
Merci,
merci beaucoup à vous.
Merci Céline pour votre appel et nous accueillons Noa. Bonjour Noa.
Bonjour.
Bienvenue,
bonjour,
vous avez contacté sur WhatsApp. Alors vous êtes éducatrice spécialisée, c'est ça ? Vous avez 26 ans, vous êtes d'une génération qui est quasiment née avec le smartphone. Et êtes-vous, addict, dépendante aux réseaux sociaux ?
Bah pas franchement, parce que à part WhatsApp, donc là où je vous ai contacté, j'en ai pas d'autres. Donc ça me sert essentiellement pour la communication, comme un peu les SMS. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. À 18 ans, en fait, après le lycée, j'ai dit stop. Voilà.
Comment vous avez fait ? Parce que c'est dur, parce qu'à 18 ans, on est immergé dans ce monde des réseaux sociaux, même si je sais que tous les jeunes ne sont pas attirés par Snapchat, Insta ou X. Comment vous avez fait pour tout arrêter d'un coup ?
Eh bien, alors oui, comme vous dites, c'est omniprésent en fait. Et cette omniprésence, dans l'utilisation, en tout cas moi, j'en ressentais un effet malsain. Et ça prenait vraiment toute sa place, et c'est clairement ce refus en fait de m'entraîner dans tout ce qu'on peut ressentir de négatif par rapport à ça. J'ai dit stop, quoi, c'est pas possible. Ça, c'était c'était plus fort que le lien social.
Et Noa, vous avez dit stop, comme j'en connais certains autour de moi qui ont arrêté du jour au lendemain la cigarette, du jour au lendemain. C'est un peu ça.
C'est un peu ça au début, surtout à 18 ans, on n'est pas tout à fait adulte, on n'est plus tout à fait ado, donc on se dit mais qu'est-ce que je vais faire ? Et puis en fait, le temps investi dans quelque chose de plus concret, en fait, c'est beaucoup plus enrichissant, en tout cas ça l'a été pour moi. Et alors oui, on se retrouve à 5 amis au lieu de 200, mais en fait...
Mais 5 amis de qualité, Noah.
Voilà,
5
amis de qualité.
Noah, pardon Noah, il y a Fanny Jacques qui veut vous parler.
Non, mais moi je suis assez optimiste, bravo Noah déjà, et je trouve quand même, je ne sais pas si c'est votre cas, mais chez les 18-25 ans, il y a quand même un petit mouvement, il y a un petit mouvement par exemple environnemental, etc. Et il y a une prise de conscience également sur ces réseaux sociaux. Vous n'êtes pas la première et je vous félicite. Alors chez les ados, c'est difficile, ils sont très vulnérables. Mais chez les jeunes adultes qui sortent du lycée, j'ai l'impression qu'au moment justement du passage à la fac, il y a une sorte de, voilà, un changement qui se fait. Il y en a qui disent un peu merde aux réseaux sociaux et qui réapprennent à communiquer autrement, qui passent des appels, qui passent des textos, qui voient les gens dans la vraie vie. Et en fait, ils disent waouh, c'est vachement sympa, quoi. Qu'est-ce que c'est chouette.
Il faut vraiment qu'on les protège.
Il y a un
avant,
mouvement.
Parce que
ouais.
Ceux-là, ils sortent et peut-être indemnes et sans problème. Mais il y a toute cette série d'enfants et d'adolescents dont on a parlé, hein, en tant que
qui sont
les
nés
tentatives
avec.
De suicide augmentent, hein, je suis désolée de redire et de plomber un peu l'atmosphère, mais il faut le redire, les troubles du comportement alimentaire sont de plus en plus importants, et on l'a dit, il y a des études qui montrent qu'en 15 jours, vous diminuez, en 15 jours, vous avez une image de soi différente, vous avez des troubles du comportement alimentaire qui changent.
Mais c'est ce qui a fait fuir Noah, elle parlait d'ambiance malsaine sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Noah de nous avoir contacté sur WhatsApp, et nous accueillons Cléopâtre. Bonjour Cléopâtre, bienvenue.
Oui, bonjour.
J'adore votre prénom. Je ne sais pas si c'est un pseudo ou un vrai prénom.
Non, c'est un pseudo.
Ah, bah, très bien. C'est un très beau pseudo. Moi, c'est Aladdin, si vous voulez, mon pseudo. Cléopâtre, plus sérieusement, comment en faites-vous pour mettre les réseaux sociaux à distance? Est-ce que vous y parvenez, d'ailleurs?
Alors, disons que ce n'est pas mon objectif premier de les mettre à distance. J'ai plutôt un rapport d'éducation. Mm-hmm. C'est ce que j'avais mis dans mon petit message qui a fait que votre équipe m'a recontacté. J'expliquais en fait que de la même manière que j'ai appris à marcher à mon enfant, à nager, à manger, eh bien je lui apprends aussi à utiliser son téléphone déjà, et puis les réseaux sociaux, on n'y est pas encore, mais dans un second temps ce sera effectivement les réseaux sociaux.
Comment vous y prendrez-vous justement pour faire cette éducation numérique, cette éducation aux réseaux sociaux pour votre enfant?
Alors je pense, alors je l'ai expérimenté avec mon aîné, là c'est mon second qui a 11 ans, qui va pas tarder à aller un peu là-dedans. Déjà l'accompagner physiquement, c'est-à-dire ne pas le laisser seul, décortiquer avec lui les fonctionnements, lui expliquer comment ça se passe, vérifier mais sans surveiller, c'est-à-dire que j'avais réussi à installer une relation de confiance avec mon aîné, où on allait régulièrement sur ses réseaux, voir qui le suivait, comment ça se passait. La privatisation du compte, etc., etc. Donc voilà, quelque chose dans douceur, de progressif, en communiquant aussi sur ce qu'il est capable de faire lui, sur mes demandes, ses demandes, de trouver un équilibre et d'y aller vraiment en douceur, quoi. Comme quand il a appris à nager, finalement, ou à marcher, ou etc., quoi.
Sylvie Chaucron.
Oui, bah,
je rappelle que vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS.
Oui, mais félicitations Cléopâtre, parce que cette question de l'apprentissage, elle est vraiment cruciale. Et on a maintenant de quoi expliquer aux enfants pourquoi on est si vigilant, parce que je pense que voilà, il faut leur dire que c'est pas une interdiction pour les priver, pour les punir, mais qu'on sait aujourd'hui, par exemple, il y a une journaliste qui a créé un profil en se faisant passer pour une jeune fille de 13 ans. Il a fallu pas moins d'un quart d'heure pour qu'elle reçoive des contenus sur le corps, sur les régimes, sur l'image de soi, sur le suicide, sur le mal-être. Et donc, en fait, une fois que vous commencez à recevoir ces contenus et que vous commencez à les regarder, vous vous engouffrez dans l'algorithme qui ne va vous proposer que ça. Et à l'âge de l'adolescence, où les ados et en particulier les jeunes filles sont fragiles, ben les enfermer dans leurs problématiques sans leur donner de solution, mais en les renforçant dans leur inquiétude sur leur corps, sur leurs pensées suicidaires, sur leur mal-être, ben c'est les exposer vraiment à des troubles graves en termes de santé mentale. Et donc on peut, enfin moi vraiment je considère que dès le plus jeune âge, on peut expliquer avec les mots qu'il faut toutes ces craintes qu'on a, tous ces risques, et c'est très important d'éduquer les enfants à l'utilisation des smartphones.
Je ne sais pas vous, mais moi je les trouve assez formidables. Les parents qui nous écoutent et qui nous appellent, nous appellent ce matin au standard et sur WhatsApp.
Je rebondis sur le rapport Amnesty International qui reprend exactement cela. Et ça, c'est important d'aller voir sur l'effet des réseaux sociaux et notamment TikTok. En quelques heures, vous êtes pris dans un tunnel et vous avez beaucoup de mal à vous en sortir pour ces adolescents vulnérables par nature. Bravo Cléopâtre pour ce que vous faites, mais vous avez du temps, vous avez de l'information, vous êtes à l'évidence aiguisé sur le sujet et très bien. Je pense qu'on manque de temps pour beaucoup de parents, pour peu qu'on ait plusieurs enfants. Il y a des enfants aussi avec des profils différents, avec une même éducation, ça me semble important et les parents le ressentent assez vite sur une fille, les réseaux sociaux, les jeux vidéo et un garçon. Donc voilà, il faut rester très vigilant et surtout, il faut donner ces règles et cette information avant de donner le smartphone. Avant.
Je rappelle Sylvie Duosica, vous êtes pédiatre et que vous exercez dans des zones très populaires où certains parents n'ont pas toutes les ressources intellectuelles, cognitives pour accompagner au mieux
Je ne stigmatise pas. Je trouve toute population
Dans certaines populations, on n'a pas cette information-là et que du coup, on a un peu plus de mal à...
Ou des informations contraires.
C'est ce que je suis en train de vous dire.
Absolument. Oui, tout à fait. Et puis depuis maintenant quand même la pandémie que nous avons vécue, je trouve que les niveaux socio-économiques se mélangent. Et à partir du moment où on a donné le smartphone, quel que soit votre niveau économique, même si vous êtes très attentif, vous pouvez partir. Moi, j'ai eu il y a
parce pas très longtemps. Je dis ça, je précise, parce qu'il y a des parents qui pensent bien faire.
Mais bien sûr.
Par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'agilité d'un jeune enfant avec son portable, son smartphone, ou de bonne foi, on se dit ah mais il est agile, c'est.
Ils arrivent en annonçant l'alphabet ou les chiffres des petits enfants de 2 ans et demi et ne savent pas dire papa et maman. Et les parents au départ sont très fiers et se rendent compte de l'erreur qu'ils ont faite.
Fanny Jacques.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le principe de littératie numérique, l'acculturation au numérique. Et ça, je pense que c'est vraiment toutes les classes sociales, ça dépend de parce qu'il y a aussi des CSP+, qui vont être toute la journée sur leur écran en télétravail et qui donc vont pas prendre le temps d'expliquer à leur enfant. Pour ajouter, Cléopâtre, effectivement, donc il y a en effet, dire à son enfant, c'est qu'est-ce que tu regardes sur ton fil en ce moment, il y a quoi cette semaine, etc. Et au-delà du contenu, quand même, c'est intéressant, je trouve, de mettre des limites techniques. Ça existe, donc il faut le faire. Le contrôle parental, le temps d'écran, le blocage horaire, des restrictions d'accès. Évidemment, ça fait pas tout, mais c'est quand même important de le faire et de soulever, enfin, de faire tomber les barrières au fur et à mesure de l'âge et de la progression
et pas d'écran dans la chambre.
Merci beaucoup, Cléopâtre, de nous avoir appelé au 0145 24 7000. Allez, dans un instant, nous partagerons d'autres conseils pour moins dépendre des réseaux sociaux. Ce sera juste après avoir écouté Meryl qui interprète Business, 10h47 sur Inter.
Chop, elle fait chop business à tout moment où on palaçait. Chop à go doudou, c'est mauvais temps. Nous hop, donc yo les piges si la détente. C'est l'année plus soleil que les tempêtes. On veut réaliser tout ça, ni en tête. Mais j'en connais donc à fait papa, c'est nègre là pas aimé ça. 450YFZ, tu connais ici à CNFZ. Faut manger aussi au jour en il est contact. Faut pas y offrir tête pour échapper. Maman me touche comme si je suis plus là. Elle me sort dans ses bras, elle est au plus bas. Avant il m'en faut Henri Fekaila. Pour moi combien fois y'a lui me laïta. La ria pas qu'à jouer moi des zaza. Mais des rangettes qui baillent pour tout le monde baille là. Sauf la nation où ça veut nous ni ça là. Je vais être quelqu'un quand elle est à Gaza. Comme c'est funny, chante la 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 la. Mon fouette pouti la en gla 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 gla. Pas moi en winner ou en dompé. Diamant de la saison et gay et donne me. Chop à l'effet chop business. À tout moment où on palaçait. Chop à go doudou, c'est mauvais temps. Nous hop donc yo les piges si la détente. C'est l'année plus soleil que les tempêtes. On veut réaliser tout ça ni en tête. Mais j'en connais donc à fait papa. C'est nègre là pas aimé ça. Chop à l'effet chop business. Yididi. Chop à l'effet chop business. Didididi. Chop à l'effet chop business. Chop à l'effet chop business. Didididi. Oh na 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 na. Je serai prêt à l'envie à cauchemar. Faut moi soleil qu'on enchaîne. Mais on est chaud donc on s'en sait qu'on reçoit. Maman lève-nous à l'église. Mettez
je regardais les passes. Mes parents étaient enfants de carousel à passe. Les choppes, les fêtes choppies. À tout moment où on parle assez. Je suis pas qu'au tout tout tout, c'est mon fécin. Je suis pas qu'au tout tout tout, c'est mon fécin. Les choppes, les fêtes choppies. À tout moment où on parle assez. Je suis pas qu'au tout tout tout, c'est mon fécin. Je suis pas qu'au tout tout tout, c'est mon fécin.
Meryl interprétait Business.
France Inter crève l'écran. Grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse, à l'occasion de cette journée spéciale consacrée aux écrans, comment expliquer notre addiction aux réseaux sociaux et comment prendre de la distance avec tous ces réseaux. Et nous accueillons Marianne. Bonjour Marianne, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour. C'est la grand-mère qui appelle.
Oui, je suis grand-mère de deux petits-enfants et ma petite-fille est en cinquième, donc au collège. Mmh,
d'accord. Et vous vous étonniez d'un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses scolaires qui passent par les écrans et par le smartphone.
Oui, en effet. En fait, on a souvent essayé avec ma fille et mon gendre de stopper, voire d'interdire le smartphone. Mmh. Sauf que l'application, il y a une application
Pronote. Note et École Directe. École Directe.
Voilà, excusez-moi. qui est donc imposée par le collège et pour faire ses devoirs. Mmh. Et en fait, on se trouve devant ce problème. C'est-à-dire
c'est
que si on interdit le smartphone, ma petite fille ne peut pas faire ses devoirs.
Sylvie Diozica.
Oui, c'est tout un problème. L'école n'apprend pas le numérique. On est en train d'utiliser les écrans à l'école pour... Il n'y a pas d'éducation au numérique et pourtant on prône le Pronote, l'école directe. Je pense qu'il faut pouvoir avoir les accès et le faire sur votre portable à vous ou sur un ordinateur familial. Idéalement, je pense que ça serait bien mieux, si c'est possible pour des familles, d'avoir un ordinateur familial et qui permet, avec les accès, d'aller sur Pronote ou école directe. Il y a certains collèges qui ont décidé d'arrêter, notamment Paris 14e. Ils ont arrêté l'usage de Pronote ou d'école directe.
C'est dès l'école primaire que l'on doit instaurer une éducation numérique. Et en quoi consisterait cette éducation, même dès la maternelle, en quoi consisterait cette éducation numérique, concrètement, Sylvie Diozica?
Déjà, d'informer de façon honnête, sans conflit d'intérêt que je suis, je ne l'ai pas dit, mais c'est important dans ce domaine, d'informer les parents et de leur dire quels sont les risques qu'ils prennent en utilisant les écrans, de bien leur montrer que c'est eux qui sont bien plus performants pour apprendre des tas de choses à leurs enfants, même s'ils ne maîtrisent pas la langue française ou s'ils sont dans d'autres difficultés. Un enfant jouera bien mieux avec son parent bien présent, c'est le problème de technoférence. Et donc plus on le fait tôt, c'est comme le bien manger, bien dormir. Moi je commence à 15e jour de vie à la consultation et en maternité, on devrait faire aussi ce message qui devrait être poussé et répété auprès des parents.
Sylvie Choucron, neuropsychologue.
Oui. Maintenant on a un programme qui s'appelle le programme des 1000 jours en France, qui est un programme d'éducation à la parentalité de 0 à 3 ans. Et dans ce programme-là, force est de constater qu'il faut absolument marteler, expliquer aux parents les risques d'un mésusage ou d'un hyperusage des écrans pour les parents d'enfants jeunes et pour les enfants jeunes. Et c'est là qu'il faut expliquer comment un tout petit doit être stimulé.
Fanny Jacques, psychiatre.
Oui, et pour les pré-ados, je pense que maintenant, on peut leur expliquer le business, en fait. Business,
c'est très important ce que vous dites.
C'est hyper important. Ils peuvent comprendre. Moi, mes enfants, ils comprennent très bien. C'est toi le produit. L'algorithme, il choisit pour toi et il choisit ce qui te choque. Et c'est ça qui va te faire rester. Pas ce qui est bon pour toi. Et les likes, c'est un vrai piège de validation. Donc, fais attention. Parce que ça, c'est un discours qu'ils peuvent tout à fait entendre,
oui,
les ados.
Fanny, les likes, que les pouces levés, ça répond à un besoin fondamental de l'être humain, d'être reconnu, d'être aimé.
Oui.
Et ça, c'est un besoin fondamental qui est plus fort que tout. Et c'est vrai que les ingénieurs de la tech savent à merveille nous manipuler de ce point de vue-là. C'est leur but. D'ailleurs, et merci Marianne de nous avoir appelés, il est important peut-être de connaître les éléments déclencheurs qui nous poussent vers ces réseaux sociaux. C'est déjà une prise de conscience fondamentale pour se distancier de ces réseaux. Et il y a beaucoup d'éléments déclencheurs qui nous poussent à y aller, Sylvie Choucron.
Mais oui, bien sûr. En
l'ennui,
fait,
la fatigue, le mimétisme, le fait que le smartphone soit dans son champ de vision,
exactement,
la peur de rater quelque chose.
Voilà, la peur de rater quelque chose, la simple notification, la vibration. On sait aujourd'hui que 90% des gens ont aussi des notifications hallucinatoires, c'est-à-dire qu'ils pensent que leur téléphone a vibré alors qu'il n'a vibré. Et donc finalement, que vous soyez triste, joyeux, content, que vous ayez envie de communiquer, que vous vous ennuyez, que vous ayez du temps devant vous, toutes les raisons sont bonnes pour aller s'engouffrer dans ce que vous propose votre téléphone, sachant qu'en plus, la perversion du smartphone, c'est que vous pouvez tout y faire. Donc, aux gens qui viendraient nous dire que le téléphone, c'est la même chose que le livre à l'époque et qu'on a eu peur au moment de l'imprimerie du livre et que c'est pareil pour les téléphones, non, avec un livre, on ne faisait que lire. Avec un téléphone, on peut tout faire.
Et l'un des éléments déclencheurs, c'est l'ennui.
Bien sûr, parce qu'on devient intolérant à l'ennui. Et donc, du coup, au lieu de laisser
on le voit dans les salles d'attente, on le voit dans les transports en commun, on dégaine tous nos smartphones.
Alors que, l'ennui, on le dira jamais assez, c'est un moment précieux pour le cerveau, parce que c'est le moment où le cerveau met en relation des informations passées, des choses à venir, et c'est là qu'on résout des problèmes. Donc, il faut des périodes d'ennui, et en particulier chez les enfants.
Il y a tous les âges, on n'a pas encore
eu... Il ne faut pas que les parents se culpabilisent, justement. L'enfant doit s'ennuyer, ça fait partie de son développement. Je dis une chose important, ce qu'on vient de dire, c'est du temps volé à des tas de choses dont l'enfant a besoin, le petit comme le grand. Et on n'en a pas beaucoup parlé, l'activité physique est absolument essentielle. Et quand vous êtes sur un écran, vous êtes sédentaire par définition. Et nos enfants vont pas bien aussi, malheureusement, sur le plan physique. Donc, continuez le sport, les activités, sortez de la maison, allez dehors, vous exposez à la lumière naturelle, parce qu'il y a un impact aussi sur la vision qui est notable. Donc, ça fait beaucoup d'impact sur lequel on devrait modifier nos façons de faire.
Mais c'est vrai que j'ai deux grands-neveux de 14 et 16 ans qui sont hyper sportifs, qui font ça énormément d'activités physiques, et c'est vrai que je constate qu'ils sont beaucoup moins dépendants à leur téléphone et à leurs réseaux sociaux.
Santé publique France avait montré qu'à partir de 11-12 ans, l'âge auquel où malheureusement on va donner un smartphone, la diminution des activités physiques des filles comme des garçons est extrêmement diminuée. Un petit mot juste, excusez-moi, sur les médecins. Les médecins, les pédiatres ne sont pas formés à la problématique du numérique, donc ne rebondissent pas auprès des familles, des parents, des ados pour les informer. Ça, c'est aussi un point essentiel qu'on devrait modifier.
Fanny Jacques.
Non, je voulais dire qu'effectivement, le smartphone, maintenant, on paye avec, on prend le métro avec. Donc, c'est vrai que c'est difficile, on a tous le smartphone à la main. Et on a entre 500 et 800 notifications par jour. Oui. Donc,
enlevez vos notifications, moi je les enlève mon téléphone.
Il y a des choses de soi-même qu'il faut faire. Et moi, je mets en rapport ce paradoxe énorme de l'hyperconnexion et de la solitude. Avant, les jeunes, on allait sur la place du village, on avait le foyer, on se parlait, même la télé à la rigueur. Au moins, on regardait le même truc.
Vous parlez des adolescents, solitude des seniors aussi. On n'a pas eu trop le temps de parler de cette
hyperconnexion
des seniors qui sont aussi touchés par cet usage problématique excessif des réseaux sociaux.
Oui, parce qu'en fait, on a un peu la même problématique. On a d'un côté les natifs des smartphones, les jeunes, pour qui c'est une partie d'eux-mêmes, et on a de l'autre côté, à l'autre extrême, les seniors qui, eux, n'ont pas appris à se servir de ces outils-là. Et pour eux, avoir quelque chose qui est disponible 24 heures sur 24, avec des relations virtuelles qu'ils peuvent prendre pour des relations réelles, avec des choses écrites qu'ils prennent pour argent comptant, auxquelles ils accordent de la confiance, les seniors peuvent se mettre en danger, et on sait aujourd'hui que ça accélère le déclin cognitif.
Pour conclure, se poser des questions sur ces éléments déclencheurs qui nous poussent vers les réseaux sociaux, c'est déjà trouver une partie de la solution ?
Oui, bien sûr. S'observer, c'est déjà comprendre. Après, on met les règles en place et les conseils et les tips, mais déjà, on essaie de comprendre pourquoi on y va. On n'y va pas pour rien, on y va parce qu'il y a un vide et que ce vide a besoin d'être comblé.
Je rappelle quelques conseils pour terminer. Se fixer des limites de temps, définir des plages horaires sans écran, privilégier les contenus enrichissants plutôt que le scrolling passif.
Se demander pourquoi on prend son téléphone.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on a besoin de faire dessus.
Très important.
Et le sommeil.
Et identifier les émotions qui nous anime quand l'envie de consulter un réseau social nous prend. Merci à toutes. Merci Sylvie Diozica, l'enfant écran, c'est chez Grasset avec votre mari Eric Ozica. Merci Sylvie Chocron et merci Fanny Jacques, un livre à venir sur l'IA dans quelques mois. Vous pouvez également retrouver des extraits vidéo de Grand-Mère vous fasse, sur les réseaux sociaux. Et demain avec elle à table, on s'intéresse à tous ces plats mijotés qui nous font du bien, comment les réussir et les erreurs à éviter.